9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadi.
Bonjour Loïc Belache.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'écologie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et vous publiez « Quand les animaux font la guerre » chez Humaine Science dans la collection dirigée par Étienne Klein. Pendant longtemps, on a cru que les animaux étaient incapables de faire une chose pareille, que c'était réservé aux êtres humains. La première à avoir été le témoin d'une guerre entre animaux, c'est la célèbre éthologue Jane Goodall. Hein, en 1974, en Tanzanie, c'était la fameuse guerre des chimpanzés de Gombe qui a duré 4 ans.
Oui, c'est la première preuve et la première évidence observée par des scientifiques de conflits, d'affrontements entre groupes animaux, sans vocation de prédation, uniquement pour des guerres de territoire, pour acquérir un territoire, avec des comportements spécifiques, des comportements guerriers qui ont été décrits à ce moment-là.
C'était une guerre de territoire, en effet, assez similaire à ce qui se passe entre les hommes. Et il y a d'autres cas, hein. On les a découverts depuis, vous le racontez, entre les suricates, par exemple, qui se livrent à de véritables batailles rangées.
Alors, les suricates sont des petits mammifères sociaux africains qui doivent défendre leur territoire. Ils vivent sur des territoires avec des troupes assez denses, collées les unes contre les autres. Et il y a presque des affrontements quotidiens entre les groupes de suricates, avec des comportements spécifiques pour prévenir la guerre, pour prévenir que des combats vont éclater. Il y a la danse de la guerre qui a été très bien décrite, où les suricates se regroupent et ont des mimiques pour impressionner la troupe voisine.
Tout ça, ça a dû être des surprises considérables pour les scientifiques.
Alors, ça a été des surprises et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étude des groupes sociaux d'animaux, de mammifères, d'oiseaux ou d'autres, est malgré tout assez récente. Donc on a longtemps considéré la nature comme un milieu sauvage avec beaucoup d'agressivité, mais pas d'agressivité organisée. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionnent les groupes lorsqu'ils se font la guerre, puisque ce sont des groupes avec des conflits, mais des conflits toujours entre individus, entre plusieurs groupes, avec des initiateurs de la guerre, avec des personnes qui vont essayer de limiter les conflits. Et c'est ce que l'on observe chez beaucoup d'espèces.
Concernant les mangoustes, par exemple, vous dites que ce sont les femelles qui sont souvent à l'origine des conflits.
Oui, alors ça c'est une surprise parce que c'est quelque chose qu'on a observé récemment. Chez les mangoustes, ce sont les femelles qui initient les conflits. Ce sont elles qui sont un peu les belliqueuses et qui vont entraîner le groupe dans ce type de combat. Alors tous les mâles ne souhaitent pas faire la guerre d'ailleurs, des mâles ne rechignent un peu. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est comprendre pourquoi ces femelles initiaient ces conflits. Est-ce qu'elles avaient un avantage autre? Et on a découvert récemment que dans les mêlées, au moment de ces conflits, certaines femelles dominantes en profitait pour se reproduire avec les mâles dominants de la troupe d'en face. Donc une sorte d'intérêt secondaire pour les femelles à initier des combats.
Alors dans certaines espèces, vous dites qu'il y a de véritables armées hein, composées de soldats de métier, chez les abeilles, chez les fourmis. Il y a la reine, il y a les ouvrières, on en parle souvent, mais il y a aussi celles qui sont là uniquement pour préparer la guerre.
Voilà, là on arrive à un niveau, ce qu'on appelle de socialité en éthologie, qui est le plus poussé, avec des castes qui existent chez les insectes sociaux. Il y a naturellement les reproducteurs qui ne font que se reproduire et qui souvent ne peuvent pas se nourrir seuls. Il y a les ouvrières qui sont là pour entretenir le groupe, la fourmilière dans le cas des fourmis. Et puis les soldats, alors qu'on n'appelle pas toujours soldats, maintenant on appelle ça plutôt les majors parce qu'ils ont une corpulence plus imposante, ils ont des grosses mandibules ou d'autres formes d'armes, et eux dont la vocation est uniquement de défendre le groupe et qui sont souvent aussi incapables de se nourrir. Donc c'est un trio qui crée un équilibre dans ces groupes animaux et ces soldats ou ces majors sont des véritables armes vivantes dont la fonction principale est de défendre le groupe.
Oui, ce sont des armes vivantes. Vous parlez des fourmis kamikazes, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment elles opèrent?
Alors, dans la description des fourmis kamikazes, il y a plusieurs modalités. Il y a des fourmis kamikazes qui sont des véritables bombes vivantes parce qu'elles ont un abdomen qui est gonflé avec des produits comme de l'acide formique ou des poisons de contact, qui lors de la mêlée, lors des conflits avec les assaillants, vont éclater à leur approche et vont asperger les assaillants de ces produits. Il y a d'autres fourmis kamikazes dans des fourmilières qui vivent dans des canopées assez hautes dans les arbres, qui vont se jeter dans le vide avec les assaillants. Donc il y a différentes formes de soldats dont la fonction pour défendre le groupe peut aller jusqu'à se suicider en même temps que défendre la troupe.
Mais quand vous parlez de fourmis kamikazes qui se font exploser, alors évidemment, ça nous rappelle de tristes souvenirs. Je parle entre êtres humains cette fois-ci, mais comment se font-elles exploser? Elles n'ont pas de ceinture d'explosifs.
Ah ben, non, elles ont pas de ceinture d'explosifs, mais en fait, c'est un processus physiologique. Au moment des combats liés au stress, qui fait que l'individu va éclater. Et c'est comme ça qu'elle est entre guillemets programmée pour défendre le groupe. Alors, elle n'explose pas toujours au premier combat, hein. C'est souvent des fourmis qui, dans la mêlée, ont aussi des mandibules, donc essayent de découper l'assaillant en deux et ainsi de suite. Mais lorsqu'elle est elle-même en train d'être attaquée, eh bien, la dernière solution, au lieu de mourir sans rien faire, c'est de mourir en éclatant et en aspergeant l'ennemi de ces substances.
Loïc Bollache, il y a d'autres guerres dont on va parler, mais on laisse passer d'abord une pause.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Loïc Bollache, il est professeur d'écologie, c'est l'auteur de « Quand les animaux font la guerre » chez Humaine Science. Vous parlez dans ce livre longuement des guerres de succession qui dégénèrent en guerre civile, chez les fourmis par exemple.
Oui, alors c'est dans les différentes formes de guerre, on a naturellement des guerres assez classiques, et puis on a ces guerres de succession que l'on connaît dramatiquement aussi chez l'humain et que l'on observe chez les animaux, et donc chez les fourmis. Lorsque, par exemple, des nouvelles fourmilières vont être créées, donc on a ces fameux essaimages, hein, quand on est au printemps, on voit ce qu'on appelle des fourmis volantes. En fait, on voit des futures reines s'envoler, généralement poursuivies par une horde de mâles qui essaient de se reproduire avec. Et une fois que ces jeunes reines ont été fécondées, elles vont chercher un endroit pour fonder une fourmilière. Et elles peuvent décider des fois de s'associer, ne pas le faire seules, mais faire le travail à plusieurs reines. Alors elles vont s'associer à 5, 6 ou une dizaine de reines ensemble. Elles vont commencer à construire un couvain. Et lorsque les premières ouvrières vont naître, eh bien cette paix sociale entre les différentes reines va être rompue. Et c'est une guerre acharnée entre ouvrières, entre reines, entre ouvrières et reines. Et tout le monde en fait va combattre jusqu'au stade final, lorsqu'il ne reste qu'une seule reine et qui va gagner ce combat et qui va naturellement pouvoir poursuivre son travail et fonder cette fourmilière. C'est une sorte de guerre du trône que l'on connaît bien.
Et chez les chimpanzés, c'est pareil?
Alors chez les chimpanzés, c'est un peu différent parce que les guerres de succession sont beaucoup plus proches de ce que l'on connaît chez l'humain. Naturellement, ce sont des primates, ce sont nos très proches cousins, donc on partage beaucoup de choses. Là, ce sont plutôt des phénomènes d'alliance qui existent entre le mâle dominant, ce qu'on appelle le mâle alpha, et puis les mâles subordonnés. Donc généralement, chez les chimpanzés, comme chez beaucoup de primates, une place intéressante, peut-être même la plus intéressante, c'est pas la place du chef, c'est la place de second, celui qui est juste au-dessous, parce que c'est lui qui va créer des alliances, alors soit avec le mâle dominant, et puis ce duo maintient le groupe sous sa coupe, mais lorsque le mâle numéro 2 décide de s'allier au mâle numéro 3, eh bien, à tous les deux, ils vont pouvoir en fait entraîner la chute du mâle dominant. Et c'est le mâle numéro 3 qui va devenir premier. Le mâle numéro 2 est toujours sûr de rester second, mais le mâle premier peut voir son trône être accaparé par le mâle numéro 3.
Oui, effectivement, le numéro 2 lui restera, quoi qu'il arrive, toujours numéro 2, finalement.
C'est ça, le numéro 2, son avantage pour lui, c'est que quoi qu'il se passe, il sera toujours sûr d'être numéro 2. Le numéro 3 peut devenir numéro 1, le numéro 1 peut descendre dans la hiérarchie, voire des fois être tué. On a vu des numéro 1 lors de ces combats mourir. Mais l'avantage, c'est souvent le numéro 2, et ça demande quand même une connaissance assez fine et des processus d'alliance qui permettent d'arriver à ses fins.
Chez les hyènes, ça se traduit comment les guerres de succession?
Alors les hyènes, c'est une particularité animale parce que souvent, quand on parle par exemple des chimpanzés, on parle des mâles qui sont des mâles dominants. Chez les hyènes, il faut imaginer que ce sont des dynasties femelles. Ce sont les femelles qui dominent les groupes, les mâles sont plus petits que les femelles. Et on a chez les hyènes des dynasties, des lignées maternelles qui sont des lignées dominantes. Alors chez beaucoup d'espèces animales, c'est généralement les individus les plus forts qui sont les plus dominants. Chez les hyènes, c'est différent. Il faut être bien né. C'est que si on est né dans la bonne lignée, on a plus de chances d'être dominant un jour que si on est né dans la mauvaise famille. Et lorsqu'on a une lignée dominante qui est très puissante, elle peut exercer une pression sur les lignées inférieures les empêcher de se reproduire, les empêcher d'avoir accès à de la nourriture. Et on peut voir des lignées comme ceci totalement disparaître parce qu'elles n'ont plus accès aux ressources.
Et les crevettes pistolets, comment se font-elles la guerre, elles?
Alors, les crevettes pistolets sont des petits crustacés qui ont été découverts, qui vivent dans des éponges, des crustacés sociaux. C'est une organisation sociale qui est un peu moins élaborée que celle naturellement des insectes comme les fourmis, mais c'est une organisation déjà assez complexe. Et les chercheurs ont pu observer que, un peu comme chez les fourmis, lorsqu'une reine disparaît, les ouvrières se retrouvent en fait toutes seules, elles n'ont plus de reine. Et les ouvrières vont se faire la guerre entre elles, vont combattre jusqu'à ce qu'une devienne la plus forte, la plus dominante, et va devenir la future reine. Alors, ce qui est intéressant chez les crevettes pistolets, c'est que il n'y a pas de mortalité, comme on peut voir par exemple chez les fourmis, comme on a décrit chez les fourmis. Chez les crevettes pistolets, la plupart du temps, ce sont des combats qui permettent d'établir une hiérarchie entre les ouvrières, et celle qui va gagner en fait, et celle qui va avoir la position supérieure, va devenir la future reine.
Loïc Bollache, comment s'arrêtent les guerres entre les animaux? Est-ce qu'ils finissent par faire la paix?
Alors déjà, la première chose, c'est que déjà, ils essayent d'éviter de faire la guerre. Une caractéristique aussi du monde animal, c'est que la guerre, en fait, n'existe que lorsque l'on décide de se défendre. Il y a un assaillant et puis il y a un groupe qui se défend. Mais on a plein de mécanismes pour éviter de faire la guerre, pour éviter d'avoir des conflits. Et si par malheur il y a des conflits, alors il y a plusieurs situations. Il y a une situation qui est généralement dramatique, c'est lorsque un groupe est beaucoup plus faible qu'un autre et va être totalement exterminé. On l'a observé presque chez des chimpanzés, où il y a des groupes qui dominent énormément et qui vont faire éteindre totalement un groupe, chez des oiseaux. Et puis il y a aussi des mécanismes à l'intérieur des groupes cette fois-ci, lorsqu'on parle de conflits en interne, comme des guerres de succession ou des guerres civiles, il y a des mécanismes de consolation, des mécanismes de réconciliation pour éviter que ces combats, que ces violences s'enveniment et puis arrivent à quelque chose de dramatique.
Néanmoins, les animaux sont comme nous, hein. Quand on lit votre livre, on se dit, au fond, ils ne cessent de préparer la guerre, y compris pour ne pas avoir à la faire.
C'est ça en fait, les animaux vivent dans un stress permanent. C'est pas parce que quand on parle de guerre, on parle de guerre physique, on parle de guerre réelle lorsqu'il y a des conflits. Mais si on reprend la définition et les travaux du philosophe anglais Hobbes sur la guerre, on parle en fait d'un état de guerre, c'est-à-dire ce stress permanent où on est obligé de préparer la guerre. Donc par exemple, les fourmis ont des armées, elles préparent en permanence, elles ont des soldats, et elles vont augmenter la proportion de soldats dans la fourmilière si le risque de faire la guerre augmente. Un peu comme nous on a une armée de métier, avec 200 000, 300 000 militaires, mais si demain on a un conflit qui apparaît, eh bien on va augmenter ce nombre de militaires, on va l'augmenter, on va le doubler, le tripler, on va avoir plus d'armes, eh bien les insectes font la même chose, ils augmentent le nombre de soldats si jamais il y a besoin de faire la guerre ou si le risque apparaît.
Merci Loïc Bollache, votre livre est passionnant, il s'intitule « Quand les animaux font la guerre », il est paru chez Humaine Science.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.